Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire aujourd'hui de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. On va parler dans un instant d'un film que vous pouvez retrouver au cinéma qui s'appelle Le Monde d'après avec Laurent Firode, le réalisateur. On va tout vous dire sur ce film. On va également recevoir Miss France 2022. Diane Ler sera notre invitée exceptionnelle à 6 jours de la remise de sa couronne. Diane Ler fera le bilan de son année Miss France avec nous en fin d'émission. Nos coups de cœur télé aujourd'hui consacrés notamment au grand restaurant. Pierre Palmade sera notre invité exceptionnel. On parlera également d'ici tout commence avec Aziz Diabaté qu'on recevra aujourd'hui. Noémie Schmitt viendra nous parler de la saison 2 de sa série 3615 Monique qui débarque jeudi sur OCS. Et Jérôme Anthony viendra nous parler non seulement du grand concert à Agadir mais aussi de Tous en cuisine évidemment qu'il anime chaque soir avec le cuisinier en chef Cyril Lignac sur M6. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, aujourd'hui notre invité Laurent Firode, c'est notre coup de cœur ciné avec Le Monde d'après, un film que vous allez pouvoir découvrir au cinéma. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, réalisateur de ce film Le Monde d'après. Raconte un petit peu, évidemment de façon très humoristique, avec des scènes à sketch aussi, avec la vie dans un immeuble de l'après-Covid. Il ne faut pas s'attendre évidemment à avoir un film, on va dire pathologique, on va rire surtout. Et ça fait du bien, c'est de rire un peu de tout ce qui s'est passé pendant et après.
Voilà, mon but c'est vraiment juste après le Covid. Le film a été tourné en janvier 2022, donc on était en post-Covid, enfin il y avait encore quelques reliquats de choses à faire, de gestes barrières, etc. Il y avait encore pas mal de choses et j'ai eu envie en effet d'en rire, mais d'un rire qui nous amène aussi à y réfléchir. Ben, je pense que si on ne fait que dénoncer les choses dans une satire un peu dure, je pense que les gens ils vont se contracter et ne pas recevoir le message. Et je pensais que c'était plus intéressant d'en faire une satire comme à la grande époque des films italiens, des comédies italiennes qui pouvaient parler de la société, mais avec toujours un rire. Et ce rire débouche vers une réflexion également.
Alors on est dans la grande tradition dans ce film, des films à sketch, comme on a pu voir le film de Danny Boone sur Netflix, comme on a pu voir le film de Jean-Michel Ribes avec Les Brèves de comptoir, ou encore Un fidèle dans un autre registre avec Jean Dujardin. On est vraiment dans un film à sketch où on y suit plusieurs familles dans un immeuble, et il y a une première scène mais qui démarre vraiment de façon mais très très drôle, avec un couple, lui est pharmacien, elle vit à la maison, et ils accueillent un couple à dîner, et ça va se terminer en véritable cauchemar, évidemment, ce dîner entre les gestes barrières, le pass sanitaire, et la carte d'identité, ça va donner.
Oui, je voulais commencer le film par une note vraiment, vraiment humoristique, voire même burlesque. Donc avec ce couple hyper pro-vax qui pense qu'il faut vacciner la terre entière, et un couple, je dirais un peu anti-vax, qui se cache, qui flippe un peu.
Un faux pass,
qui n'ont pas donné leur pièce d'identité en même temps. Et donc, et le mari pharmacien arrive avec un pistolet qui envoie des fléchettes, qui vaccine à 50 mètres de distance. Donc, vous imaginez un peu le tableau après, quoi. Ça va être un jeu de cow-boy, en fait, quelque part.
Mais c'est tout un prétexte, évidemment, toutes ces scènes qui vont réunir, on le verra, hein, évidemment, jusqu'à la fin du film, tous ces personnages à un moment donné. Comment est venue l'idée, Laurent, de cette histoire ?
Alors, l'histoire m'est venue, en fait, c'était... j'avais fait un court-métrage pour un festival, et ce court-métrage, c'était en fait une scène du long-métrage. Et comme ça avait eu un gros buzz, un gros succès sur Internet, le film s'appelle Dérapage, et il était sur YouTube. On a dû faire à peu près 500 000 vues en 2 semaines. Et je me suis dit, en effet, il y a un véritable besoin. Les gens ont besoin de voir des films qui parlent de cette période, qu'on puisse en rire, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter.
Dédramatiser,
en parler, et voilà, pour ne pas sombrer dans la peur et dans la psychose, en fait.
Et puis évidemment, à l'écriture, j'imagine toutes les inspirations que tu as pu avoir, Laurent, en observant juste la vie quotidienne et tout ce qui s'est passé, évidemment, pendant cette période de Covid et après.
Ah bah ça, évidemment, ça, c'est sûr que les sujets m'arrivaient chaque jour. Hein. Le film aurait pu durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les sujets tombent tout le temps. Et ce n'est pas fini. Hein.
Et tu as choisi d'en faire un film court, justement, qui appelle au débat, ensuite, évidemment, de pouvoir discuter, échanger. C'est un film qui dure 1 heure, que vous allez pouvoir découvrir, en tout cas au cinéma, qui vous permettra peut-être d'échanger avec vos voisins. Et le but, évidemment, c'était de partager dans une salle de cinéma, elles qui ont été si maltraitées pendant cette période.
Absolument. Moi, je pense que si les gens refusent d'aller au cinéma aujourd'hui, s'il y a c'est-à-dire qu'on a vu, il y a à peu près 30% de spectateurs en moins au cinéma, c'est parce que je pense qu'il faut redonner au cinéma, à la salle de cinéma, ce côté événementiel, rencontre. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire un film court pour permettre justement une rencontre, un débat, que les gens puissent en parler. Quand si on est chez soi à regarder Netflix, après on dort, c'est tout, on ne parle pas.
Oui, c'est sûr, alors que là on peut partager plus facilement. Alors moi j'imagine qu'avec tout ce qu'on vit, tu as plein d'idées déjà pour le monde d'après 2.
C'est vrai, c'est pas faux, vu que les sujets tombent tout le temps. Hein, donc la crise climatique, la guerre en Ukraine, le président qui a un pull à col roulé quand il fait 22 degrés dehors. Enfin bon, tout ça, ce sont des sujets intéressants. Donc évidemment, j'ai commencé Le Monde d'après 2, qui sera fini bientôt, je pense, et qui, j'espère, sortira en salle mars 2023.
Ah oui, comment tu fais pour aller aussi vite ? Entre le tournage, l'idée, le montage, la sortie au cinéma, mais tout va très vite, quoi.
Parce que ce sont des films qui sont faits dans une économie très très réduite. Nous sommes très peu à la technique. Moi, j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait des gros films, mais j'ai également tourné beaucoup pour YouTube, etc. Et c'est vrai que c'est une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire qu'à la technique, on est deux. Il y a une personne pour l'image, une personne pour le son. Et après, le reste, ce sont des comédiens. Et donc, c'est vrai que ça limite énormément les frais. Et ça me permet de faire des films en toute liberté. Vraiment, je n'ai de compte à rendre à personne. Et ainsi, être libre et également être rapide. En effet, vous avez absolument raison.
Aujourd'hui, comment on fait justement ? Le film a coûté combien ? Clairement, si on parle d'argent, Le Monde d'après.
Le Monde d'après, il a coûté, je pense, moins de 10 000 euros.
Alors, il faut imaginer qu'un film aujourd'hui pour le cinéma, on parle en millions d'euros aujourd'hui, logiquement. Comment on fait pour faire un film à moins de 10 000 euros ? Et il a été tourné en combien de temps ?
C'est-à-dire que comme c'est un film à sketch, il y a 10 sketchs dans le film. Le film a été tourné tout près de chez moi, même souvent chez moi, je dirais. On se retrouvait le soir, le film se passe entièrement la nuit, on se retrouvait le soir avec des potes comédiens. On mangeait chez moi et après on allait tourner. Et c'était en fait une soirée entre potes. Et on a fait ça pendant 10 nuits, 10 soirées.
Donc le film a été tourné en 10 soirées, à moins de 10 000 euros.
Voilà, c'est ça. Voilà. Un très bon repas, les cachets des comédiens, et voilà, c'est tout. Donc ça représentait 10 000 euros, en effet. Et donc le film a été fait avec cette somme-là.
Et bien, vous allez pouvoir voir effectivement ce que ça donne Le Monde d'après au cinéma. Vous allez pouvoir évidemment rire en voyant ce film. Une suite se prépare, en tout cas. Laurent, merci d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait et on se dit à très vite.
Merci beaucoup.
À bientôt, Laurent.
Au revoir.
Une belle robe, hein.
Excusez-moi. Je pense qu'on va remettre le masque.
Ouais, mais pourquoi ?
Vous avez fait...
Moi, j'ai fait...
Je peux poser mon parapluie ici ? Parce que j'avais peur qu'elle pleuve.
Qu'elle pleuve ?
C'est pas un phallus qui fait pleuvoir.
Faut qu'on sache s'il a encore sa teub ou pas.
C'est qui le papa ?
Marguerite.
Elle cache bien son gère.
Je cherche des relations avec des hommes virils.
Ok.
Et patriotes.
Vous avez des faux passes.
Carrément fait insulter par une mère qui m'accusait de maltraiter sa fille.
Pourquoi ?
Parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte.
Bon d'accord, il faisait moins de 10, mais...
Attends, écoute, à un moment, tu respectes le protocole. C'est comme ça, moi, je fais pareil.
Enfin, je veux dire, moi, je peux pas savoir, je suis qu'une jeune femme ignorante.
Mais écoutez, si vous voulez, vous faites appel à un autre plombier, hein. Ou à une plombière.
M'appelle plus Christophe. Appelle-moi Farouk.
Voilà, vous l'avez compris, l'après-Covid traité avec humour dans le film de Laurent Firode. Si il est joué dans un de vos cinémas, n'hésitez pas à aller le voir. Dans un instant, Jérôme Anthony, Pierre Palman, Noémie Schmitt, Aziz Diabaté et également Miss France 2022 débarquent dans Chut, on écoute la télé. Alors surtout, bougez pas, tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Cette fois, 2 kilos en trop. Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas, tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues. C'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids. Qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids. Qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez. Assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids. Qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi.
Bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on continue à parler évidemment d'ici tout commence votre série quotidienne que vous suivez sur TF1 avec Aziz Diabaté qui est avec nous. Bonjour Aziz.
Bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Eh ben écoute, nous ça va super bien, on est très heureux de t'avoir, on t'avait reçu pour les Bracelets Rouges, évidemment on a pu te découvrir. Et puis là c'est Enzo Lopez, évidemment le major de promo s'il te plaît dans ici tout commence. Quel bonheur de te voir, tu nous régales franchement à chacune de tes apparitions parce que d'une tu nous fais rire. Et puis Enzo a aussi quelque chose de très attachant à la fois ce personnage.
En vrai, Enzo, c'est un petit fou, c'est le mec qu'on veut dans sa vie, le mec qu'on veut tout le temps à côté de soi, quand on est triste, qu'on se sent pas bien, même quand on est content même. Vous voyez, c'est le mec qui est là, tout le temps en train de rigoler, jamais fâché, et en vrai, c'est kiffant. On peut que kiffer, vous voyez.
C'est ça, même des fois quand il peut mettre un petit peu la merde, il essaye aussi, il aime bien aussi. C'est jouissif pour lui.
Même quand il va se mettre un peu dans la merde, il y aura toujours le truc de retournement de situation en vrai. Donc ça passe, ça va, en vrai ça va.
Tu t'amuses follement dans cette série.
Je m'amuse, mais vraiment, je kiffe. Je kiffe chaque jour sur ce tournage, c'est un bonheur pour moi. Vraiment. Parce que je me lâche. Au début, c'était pas facile. Parce qu'on arrive sur une quotidienne. C'est pas comme les bracelets rouges où on a 3 mois de tournage où on peut prendre son temps. Là, non, ça va vite. Vous voyez, il y a des 20 minutes par jour à tourner.
28 aujourd'hui.
28, merci. Et il n'y a pas le temps, vous voyez, de se tromper dans le texte ou même. Les gens, ils se réveillent le matin à 6h du matin, comme Christophe, il m'a dit le premier jour où je suis arrivé. Il y a des gens qui se réveillent à 6h. Si t'es pas taillé pour ça, tu rentres chez toi. Donc en vrai de vrai, on rigole, mais c'est un taf en vrai. C'est là, on fait rire et tout, mais il faut se réveiller le matin. Faut connaître ses textes. Faut faire le boulot, vous voyez. Le boulot, faut le faire pour de vrai. C'est pas que de l'amusement en vrai.
Qu'est-ce que tu as mis de Aziz dans Enzo?
Ah, presque tout.
C'est presque toi?
C'est presque tout. Et la seule chose, c'est, entre guillemets, c'est la cuisine, la maturité, dans le sens où il y a des choses où parfois, on va dire, quand je parle à Anaïs, par exemple, quand elle était enceinte, quand elle avait son bébé, quand je commence à aller dans l'euphorie, mais je la conseille vraiment d'un côté, c'est ces choses-là. Par exemple, moi, dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Genre, demain, vous allez m'expliquer un problème, je saurais pas le régler. C'est mort, je vais tout prendre par le rire, vous voyez. Alors que dans la série, bah, il y a des choses que je vais jouer.
Forcément, façon d'extérioriser.
C'est exactement ça. Même ce que moi je fais dans la vie et dans les films, ça n'a rien à voir. Par exemple, là, quand je fais le con. Ouais, ça c'est pareil, vous voyez. Là, je fais le con, c'est pareil. Mais je sais pas comment expliquer, mais quand je suis tout seul, là, on rigole tout ça ensemble. Mais quand je vais être tout seul, je serai pas comme ça. Je serai dans ma bulle, plus solo, je serai pas en train de rire tout ça comme un con. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change, en vrai, ça change.
T'as des scènes drôles qui te reviennent en mémoire, là, à nous raconter?
Ouais, avec Clément Rémy, hein. Il y avait la scène où, on fouille dans le casier à tessier.
Ah oui, je m'en souviens.
Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Ce jour-là, ah non, c'était trop pour moi. Je suis là, je suis en train de... Et moi, en fait, j'étais trop dans la scène, vous voyez. Je suis dans la scène et tout, et j'entends un bruit. Mais normalement, quand on tourne et tout, il n'y a aucun bruit. Vous voyez, c'est le silence total sur le plateau. J'entends quelqu'un qui descend les escaliers. Je regarde Clément, je dis, il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'était pas du tout mon texte.
Et lui, il s'est fait prendre.
Il s'est fait prendre. Et il est mort de rire. Et je le regarde, je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Et le réalisateur, il dit, mais pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, mais il y avait du bruit. Moi, j'étais dans le truc à fond. Je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui arrive, faut le jouer. Et c'était mort de rire. Mais vraiment. Il me dit, t'es sérieux là? Il me dit, non, je peux plus. Clément, il part. Il dit, je peux plus. Le réalisateur, il me dit, mais t'es sérieux? Pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, mais il y avait du bruit là-haut. Je lui dis, je le joue, moi. Je le joue, le bruit, c'est...
Et là, comment finir la scène derrière?
Ça, comment finir la scène derrière? Parce qu'il y a que le fou rire. Tu penses que à ça, tu dis, mais là, il va la refaire. Alors que non, mais après, ça va. Ça, c'est assez. Ça,
moi, la scène qui m'a fait le plus rire, c'est quand Enzo, il prend bien le melon, comme il faut, parce que il est décrété chef pâtissier du double A. Et là, avec les desserts où tu te pointes dans la salle, et tu fais croire à Elsa que, c'est les clients qui veulent des selfies avec toi et qui te réclament. Mais c'est à mourir de rire.
Alors que c'est moi. Non, franchement, cette scène, elle était incroyable à jouer. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans cette scène-là, avant cette scène, je passe ma genre de promo. Ça veut dire, je passe de, on va dire, le guignol au mec qui passe un peu sa maturité, qui prend un peu de l'âge, qui veut vraiment taffer. Et switcher de ça au chef pâtissier qui veut vraiment tout gérer. Il croit qu'il y a des fans, il croit que tout le monde le kiffe. Il s'est pris pour Tessier, on va dire, entre guillemets, ou le chef charmant. C'est un ouf. Et après, ouais, c'est kiffant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les auteurs qui font bien leur boulot. Ils m'écrivent des trucs de ouf à jouer et ils savent que par la suite ça va suivre, vous voyez. Du coup, en vrai, le feeling il passe, ça tue.
Et cette fin d'année pour Enzo, est-ce qu'il va être un peu au cœur des intrigues?
Cette fin d'année, on va être un peu au cœur des intrigues, j'en dis pas plus. Je pense que vous allez kiffer. J'ai juste ça à dire, faites-moi confiance, je vous ai jamais déçu. Je vous ai déjà déçu.
Ah non, non, voilà. Non, dans les bracelets rouges, voilà. Tu nous as fait toujours rire. Voilà. Et ici, tout commence, tu nous as fait beaucoup rire aussi.
Alors, je vais pas vous décevoir.
Tu peux juste nous dire quels sont les personnages impactés avec toi dans cette intrigue?
C'est quelques nouvelles personnes, dont Lou.
Des nouveaux de la première année?
C'est ça, de la première année. C'est Lou qui joue Vic. Et ben là, c'est les intrigues, ça sera avec elle et je pense que vous allez kiffer.
Et on va voir que peut-être le château encore a quelques secrets à nous livrer pour cette fin d'année. En tout cas, merci Aziz d'avoir été avec nous. Et puis on te dit à très bientôt. On termine juste par tes projets. Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses que Ici Tout Commence?
Là, bientôt, il y a la musique qui sort à partir de janvier. Je vais sortir tous mes sons. Là, j'ai commencé mon projet solo. Je suis en train de tout faire tout seul là. Et j'espère que ça va marcher, on verra bien.
Tu nous enverras ça, qu'on puisse diffuser, qu'on en parle.
Bien sûr, il y a pas de souci. Je vous enverrai tout, il y a pas de souci.
On diffusera ça dans Chut, on écoute la télé. On te dit à très vite.
À très vite.
Eva, je suis sincèrement désolé. J'ai pas envie qu'une rumeur de merde gâche notre amitié.
Mais quelle amitié?
J'ai juste sous-entendu que peut-être il s'était passé un truc entre elle et Iniesta, c'est tout.
On a terminé, on arrête les entraînements.
Si c'est un règlement de compte pour vous, vous pouvez pas me saquer.
Vous baissez d'un ton immédiatement.
C'est quoi, vous la trouvez bonne?
C'est ça.
La veste brodée à ton nom.
Wow.
Et avec ça, tu seras parfait.
Tu vois vraiment Elliot terminer avec lui, hein?
Je le vois de plus en plus.
Elliot revient à la maison.
Mais non.
Et si?
C'est bon, ça.
J'avoue, j'y croyais pas trop.
Allez, c'est l'une de nos séries préférées dont on va parler maintenant. On a eu l'occasion, évidemment, d'en parler lors de la sortie de la saison 1. Et là, la saison 2 débarque pour notre plus grand plaisir. En plus, c'est tourné en Charente. Et c'est le retour de 3615 Monique sur OCS. Jeudi soir, vous allez pouvoir suivre non seulement les deux premiers épisodes, mais sur OCS à la demande, l'intégralité déjà de cette deuxième saison. Avec notamment Noémie Schmitt, qui est notre invitée. Bonjour Noémie.
Bonjour Alavane.
Ça va bien?
Bah, ça va super bien, et vous?
Eh ben, écoute, moi, je suis très heureux de t'avoir. 3615 Monique, le retour. Tu rendosses le rôle de Stéphanie pour le meilleur et pour le rire, parce qu'on va rire, évidemment, aussi. Et pour resituer un peu l'histoire, on parle évidemment du Minitel Rose et de l'invention du Minitel Rose un peu dans les années 80. Et cette deuxième saison va principalement s'intéresser, eh bien, à partir de 1983 et de comment ont évolué nos personnages, ceux de Simon, de Stéphanie et de Tony, qui vont encore être embarqués dans de drôles d'aventures dans cette deuxième saison, dis-moi.
Ouais, ça s'arrête pas, hein. C'est fou. Il se passe tellement de choses dans chaque épisode, c'est incroyable. On a vraiment plein d'aventures. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de notre amitié aussi à tous les trois, parce que si les gens ont vu la première saison, ils se rappellent peut-être que rien ne nous destinait à devenir amis, tous les trois, parce qu'on est très différents. Les trois personnages sont très différents. Et là, dans cette deuxième saison, on monte à Paris. On se trouve face à des dilemmes moraux qui sont un peu plus trash à réfléchir, et donc on doit se serrer les coudes tous les trois, et en même temps, bah, c'est aussi l'histoire d'une forme de séparation, et pour peut-être mieux se retrouver.
Oui, parce que c'est aussi une histoire d'amitié, 3615 Monique. Alors moi, ce qui me fait toujours rire, évidemment, c'est les noms. Alors, la ville de Jouy, bien sûr, qui est derrière vous. Vous développez le 3615 code Turlu, donc ça, c'est assez drôle. Ouais. Aussi, il y a tout plein de petits trucs comme ça, et qui sont assez drôles, et qui sont, voilà, toujours dans la finesse, quand même, malgré tout, hein.
Ouais, on essaye de rester très pudique, très classe, et toujours drôle, effectivement. Guillaume Renusson, le réalisateur, a vraiment fait un travail splendide, je trouve. L'écriture de la saison est vraiment aussi très très belle, ça développe bien les personnages, et puis ça les rend plus profonds aussi, parce qu'on est confronté à un côté plus sombre aussi de l'industrie. L'industrie du Minitel Rose, c'était, voilà, il y a Tony qui va se retrouver à produire un film porno, il y a... Stéphanie qui veut, elle, s'éloigner un peu du cul, comme elle dit, et de se diversifier dans d'autres domaines. Il y a le Simon, le geek, qui est toujours en train de chercher l'amour et qui se retrouve face à des problématiques de ce genre. Voilà, donc chaque personnage aussi grandit. Par exemple, il y a un moment donné où sur notre réseau 3615 Monique, on se retrouve face à un harceleur sexuel. Donc c'est bien parce que ça met aussi en jeu des thèmes qui sont très très actuels.
Ah oui, c'est clair.
Il y a plein de choses qui ont changé depuis les années 80 et qu'il y a aussi plein de choses qui sont encore présentes et qu'il faut encore changer dans ce nouveau monde qui est le nôtre.
Alors, on sait que Simon, il est un peu amoureux en secret de Stéphanie quand même depuis le début.
Ouais, mais ça change quand même. Il va passer à autre chose. Il m'a anticipé, quoi.
Bah, à force de se prendre un mur quand même, il a décidé de passer à autre chose.
Stéphanie, la romance, c'est pas dans son agenda.
Ah non, c'est clair. T'as pas hésité une seconde à y retourner dans cette série quand on t'a proposé cette deuxième saison? T'as dit oui tout de suite?
Bah, pour de vrai, j'adore cette série et puis j'adore surtout les gens avec qui on l'a fait, quoi. Les deux acteurs, Paul et Arthur, c'est vraiment c'est des super copains. C'est vraiment des gens humainement et artistiquement que j'admire énormément, qui sont très talentueux. Guillaume Renusson, c'est une très belle rencontre avec lui, le réalisateur. Il y a eu une équipe technique qui était vraiment formidable aussi. C'est des conditions qui sont pas faciles sur OCS. Il faut faire vite et bien. Et franchement, tout le monde a donné à fond du sien, tout le monde a été super, super fort, quoi. Et humainement, c'était une très, très belle aventure. Donc, je suis très contente d'avoir dit oui. Et puis, j'ai surtout, on a envie qu'il y ait une saison 3, on a envie que ça continue. On aime nos personnages, voilà, on aime cette histoire, quoi.
Alors, cette deuxième saison a été tournée aussi un petit peu en Charente et à Paris. Comment ça s'est passé? Ou alors, c'est le Paris reconstitué qui était tourné également en Charente, puisque la première saison avait été complètement tournée dans le département, hein, de la Charente.
Ouais, la première saison, ça a été tourné tout à fait en Charente parce qu'on était en banlieue parisienne, donc on avait reconstitué la ville de Jouy, justement. Et là, cette année, on a tourné 2 semaines à Angoulême et 1 mois et demi à Paris, Paris-Paris pour 2 coups. Et c'est vrai que je dois avouer que moi, je préfère tourner en Charente.
Ça ne m'étonne pas. Guillaume Renusson l'évoquait il y a un instant, Noémie. On aura l'occasion d'ailleurs de le recevoir le 2 janvier pour fêter cette nouvelle année 2023 avec nous. Non seulement on parlera évidemment du final de cette saison 2, mais surtout on évoquera aussi Les Survivants, un très beau film qui l'a réalisé. Sa première réalisation qu'on découvrira au cinéma dès le 4 janvier. Donc Guillaume, on aura l'occasion en tout cas de le recevoir pour parler de tout ça. Si il y a saison 3, Noémie, comment tu voudrais qu'évolue Stéphanie, justement, dans cette saison 3, si tu avais des désirs, là?
Bon, j'aimerais qu'elle puisse s'émanciper de son histoire avec sa mère, qu'elle traîne depuis trop longtemps. Sa filiation, c'est vraiment quelque chose qui le pèse. Elle a trop besoin de faire ses preuves. Et je trouve qu'elle en oublie un peu l'amitié, l'amour, etc. Et donc, peut-être la voir dans une forme d'émancipation par rapport à tout ça, et peut-être un retour vers des valeurs, qu'elle soit un peu moins tournée vers l'argent, mais peut-être plus... vers l'épanouissement de la vie, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite à Stéphanie. Et en même temps, tout la promet un avenir hyper radieux au niveau de la carrière. Mais moi, dans ce que j'estime que ce qui fait le sel de la vie, c'est évidemment pas forcément la réussite professionnelle, mais surtout la réussite du bonheur.
Alors, tu t'es embarqué dans un projet un peu dingue, celui d'Année 20, le premier film tourné en un seul plan séquence pendant juste à la sortie du Covid, pour montrer un peu cette société qui revivait. Je sais que t'es adepte de beaux projets comme ça. Alors, pour 2023, qu'est-ce qui t'attend, Noémie? Raconte-nous.
J'ai tourné une série pour Netflix au début de l'année et puis j'ai continué, je lâche pas l'idée de faire des projets qui sont ambitieux dans la forme et dans le fond et qui ne nécessitent pas les mêmes moyens, les moyens qu'on, en fait, on peut pas se permettre de produire des gros films parce qu'on n'a pas la structure et surtout parce qu'on aborde des thèmes et des manières de faire qui sont aussi pas traditionnelles. Donc on se rend compte que voilà, il faut se battre, il faut trouver des solutions. Et moi je lâche rien. Je suis sûre qu'on peut faire du cinéma. En fait, ce que je pense, c'est que le cinéma français peut s'organiser mieux pour faire face à tous ces défis de l'époque, notamment au rapport d'abus de pouvoir. Et je pense qu'on peut s'organiser en tant que société, en tant que milieu culturel, de manière plus humaine. Et donc vraiment, j'y crois très fort. Je pense qu'on peut recréer aussi un lien entre le cinéma et son public. Et voilà, j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de continuer ce combat et proposer des choses qui sont différentes, qui sortent de l'ordinaire.
Eh bien voilà, une bien chouette comédienne, en tout cas avec un beau discours. Merci beaucoup Noémie d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir en tout cas de te recevoir. Et on va découvrir...
Merci, moi aussi.
Eh ben ouais, saison 2, 36-15 Monique, c'est dès jeudi sur OCS, c'est déjà en intégralité. Dès jeudi, vous aurez l'intégralité de la saison sur OCS à la demande. Alors n'hésitez pas à y courir pour découvrir cette saison 2 inédite avec Arthur Mazé, avec Paul Scarfoglio ou encore... Anne Charrier, du beau monde autour de toi. Merci et à très bientôt. On va se quitter avec la bande-annonce. À bientôt, Noémie.
Merci beaucoup, Alain. À bientôt.
La France entière va enfin rencontrer 36-15 Monique.
Ensemble, on est imbattable. Le génie technologique.
En termes de probabilité, on est déjà à 112% de chance que Noah gagne.
La visionnaire.
Je vous invite à entrer dans le futur.
Et moi, l'art du cul.
Et on enchaîne avec...
Les jacques spatiales.
On est juste en train de se diversifier. Encore et encore et encore.
Vous connaissez Marc Dorcel?
Marché conclu.
Vous êtes des petits malins, vous, hein?
On est dans 2 millions de foyers sur tous.
Je prédis une énorme catastrophe pour vous trois.
D'ici la fin de l'année, le Minitel Rose, c'est terminé. Je vous le garantis, monsieur le ministre.
Avec Simon, on a développé un projet qui nous force à te mettre de côté.
Allez, notre coup de cœur télé consacré au grand restaurant qui revient pour un nouvel opus. Ça sera jeudi soir, ce 15 décembre, sur M6, comme un cadeau de Noël avant l'heure. Pierre Palmade est notre invité aujourd'hui pour en parler. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Instigateur, producteur, comédien, c'est presque l'homme à tout faire de cette fiction, hein, dites-moi.
Auteur, oui.
Mais oui, vous avez tout fait quasiment.
J'ai eu l'idée de cette émission il y a 30 ans déjà, j'en avais fait l'ébauche. Et puis en 2010, je me suis lancé dans ce concept. Qui est que je dirige un restaurant, un grand restaurant chic parisien, et à chaque table, il y a des grands acteurs de cinéma ou de théâtre qui jouent des sketchs que je leur ai écrits. Des petites scènes, c'est plus que des sketchs, c'est des petites scènes, des petites fables. Donc à chaque table, une histoire différente. et on passe comme ça d'une table à l'autre, d'une histoire à l'autre, et moi au milieu en directeur devant gérer un personnel un petit peu bracassé, et tout ça fait presque un film à sketch.
Alors, c'est bien sûr, évidemment, le rire qui va être à l'honneur, mais pas que, puisque c'est une nouvelle étoile qui va mettre le feu aux poudres. Ça va être la guerre de l'étoile, ce nouveau.
À M6, j'avais commencé il y a 10 ans sur France 2.
Tout à fait,
et
oui.
En relançant la saga Grand Restaurant sur M6, ils m'ont demandé ce qu'on appelle un fil rouge, c'est-à-dire qu'il y ait une intrigue à chaque fois, que ça ne soit pas juste une succession de sketchs à table. Et donc, le dernier Grand Restaurant, c'était ma mère qui débarquait, qui mettait le souk. Et là, cette fois-ci, c'est un guide gastronomique que je ne connais pas, donc que je cherche partout, que j'essaie d'identifier, et qui vient pour me mettre ou non une étoile. Donc, je suis en panique parmi mes clients. Voilà.
Et le casting est incroyable.
Alors, évidemment, le Grand Restaurant, c'est avant tout fait pour épater avec le casting. C'est vrai qu'au générique, on retrouve des... je cherche surtout des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir en télévision, quand on voit Carole Bouquet faire un sketch, ou Yolande Moreau, ou Jean-Pierre Darroussin, ou Alexandre Astier, ou Matt Pokora avec Arnaud Ducret. On va se dire, tiens, c'est pas comme les autres émissions d'humour. Je voulais déplacer des gens qui n'ont pas l'habitude d'être vus dans des sketchs télé.
Et oui, puis un espèce de mélange des genres qui fonctionne plutôt bien, en tout cas de moi ce que j'ai pu en voir. Vous allez vraiment passer un délicieux moment, pour faire un petit jeu de mots quand même, avec la cuisine et ce grand restaurant. Est-ce que peut-être l'objectif c'est d'en faire d'autres aussi dans le futur, peut-être de faire un 5e, 6e opus par la suite?
Donc c'est le quatrième, il faut savoir qu'il y a au moins 20 petites scènes par grand restaurant, donc on en est à 80 idées à table, idées de sketch. Donc évidemment, je commence à m'entourer d'autres auteurs que moi, parce qu'au début j'étais le seul à écrire, et puis maintenant je commence à demander à François Rollin, à des gens de ma troupe, de l'ancienne troupe à Palmade, comme Agnès Miguras, Rémi Deval, Anne-Elisabeth Blateau, Tom Villa, qui est un jeune humoriste.
Ouais, qui est excellent.
Voilà, et je leur demande de m'aider à écrire, parce que il faut avoir des idées. Alors plus ça va, plus les grands restaurants deviennent un peu absurdes, loufoques. Au début, on a des idées familiales, de couple, un peu conventionnelles, et plus ça va, plus ça devient barjot, ce grand restaurant.
Oui, mais c'est ça qui fait rire, justement.
Plus on connaît le programme, plus on se dit, bon, où c'est qu'il nous amène cette fois-ci? Chaque fois que ça commence, on se dit où c'est qu'il part, quoi. Je pense qu'on a le sourire dès le début de la scène, parce qu'on se dit ils vont forcément nous amener dans un endroit bien barré.
Et Pierre, c'est un peu la semaine Pierre Palmade à la télévision, parce que en plus du Grand Restaurant jeudi soir, demain soir sur France 2, 13 à table est rediffusée aussi la pièce avec Virginie Hoc. Donc c'est vraiment la semaine Pierre, hein, ne pas rater Pierre Palmade.
Les gens qui ne m'aiment pas doivent quitter le pays cette semaine-là. parce que j'ai la chance que France 2 rediffuse 13 à table, qui est une pièce de boulevard qui n'a pas pris une ride.
C'est
avec
vrai.
Virginie Hoc, qui tient les rênes de cette pièce. C'est une des premières pièces de boulevard où le rôle principal est une femme. D'habitude, c'est toujours un homme qui mène la barque. Et là, ça avait été joué par Marc Mercadier dans les années 80. Et par Annie Girardot, d'ailleurs, dans les années 50. Et puis voilà, c'est très, 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 très drôle.
À voir, et donc, demain soir, ça. Ouais, c'est donc demain soir, ça. Ça sera ce mardi, 13 décembre, à 21h10 sur France 2. La scène pour 2023, Pierre, est-ce qu'on va avoir la chance de vous revoir sur scène, de vous voir en tournée?
Je suis en train de griffonner une pièce. Je suis en train d'envisager, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis pied sur une scène. Enfin, pour moi, ça fait trop longtemps, ça fait plus d'un an, et c'est trop long. J'ai pas été inspiré par les années Covid. J'étais un petit peu en jachère, comme on dit, en friche.
En retrait?
Et, oui, mais les idées venaient pas. Et puis, je regarde l'air du temps, j'essaie de flairer. Je voudrais pas me répéter, j'essaie de reprendre de l'élan pour surprendre. C'est bien d'avoir un style, mais il faut quand même surprendre. Il ne faut pas donner toujours ce qu'on attend de vous. Donc, j'essaie d'écrire une comédie surprenante. Voilà.
à suivre. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Le Grand Restaurant, c'est donc jeudi soir à 21h10, juste après Scène de Ménage sur M6. Vous allez voir plein de beaux mondes, dont notre ami Muriel Robin, qu'on embrasse très très fort. Il y aura
Marianne Chazelle,
Didier Bourdon, Élodie Fontan, Matt Pokora, Arnaud Ducré.
Enfin,
c'est incroyable. Incroyable ce casting. Moi, j'attends avec impatience cette belle soirée.
Merci beaucoup.
Merci Pierre. On se quitte avec la bande annonce et à très vite.
D'accord. Au revoir.
Événement sur M6.
Grand Restaurant, bonsoir.
Pierre Palmade vous accueille dans son Grand Restaurant.
C'est quand même un jour spécial, non?
Et cette fois-ci, il rêve de décrocher une étoile.
Mais t'avais pas perdu une étoile, toi, l'année dernière?
Si, mais de la façade, elle était tombée avec la tempête. Ah!
Mais avant d'être couronné, il ne faut pas oublier que c'est le client qui est roi.
Est-ce que vous pouvez me changer l'entrée, s'il vous plaît?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens.
Quels gens?
Bah, ceux qui disent que vous êtes un sacré connard.
Stop!
Je suis ton pote, tu peux tout me dire.
J'ai fait l'amour avec ta mère.
T'es ignoble.
Tu m'aimerais aussi si j'étais moche.
Bon, ben, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on bouffe?
Le Grand Restaurant, la Guerre de l'Étoile, ça va être un régal jeudi 15 décembre sur M6.
Et notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Tous en Cuisine évidemment, mais on va parler aussi du concert Tous Ensemble à Agadir qui sera diffusé le 23 décembre sur W9. À la présentation, Jérôme Anthony qui est notre invité aujourd'hui depuis le Languedoc Roussillon où il vous donne rendez-vous dans Tous en Cuisine aujourd'hui. Bonjour Jérôme.
Bonjour Alain, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir, évidemment.
Mais oui, mais dis-moi, mais tu fais des progrès en cuisine, mais hallucinant. Tu vas bientôt pouvoir ouvrir ton propre restaurant. Cyril Lignac peut se méfier, là. Attention. Hein.
Alors, il se méfie déjà. Non, mais franchement, c'est quand même extraordinaire de voir que dans des conditions camping, j'arrive à faire, à sortir quand même un plat mangeable, hein, pas toujours joli, mais mangeable, grâce aux conseils de Cyril. Voilà, qui est quand même super pédagogue. Hein. Tout le monde s'en sort, tout le monde arrive à se faire plaisir.
Ah mais c'est ça qu'on aime dans cette émission, c'est vraiment le côté fun de pouvoir suivre la recette évidemment en direct avec vous tous. Et cette émission, elle manquait et quel bonheur de la retrouver pendant toutes ces fêtes depuis maintenant fin novembre. On la retrouve jusqu'à tout début janvier pour découvrir 25 nouvelles recettes de Noël, des menus de fête, des plats de légende. Enfin, il y a plein de choses différentes et ce tous les soirs à 18h40. Hein.
Alors, ce qui est formidable cette année, Alain, c'est que j'en profite hein, tant que du monde est à l'écoute chez toi pour remercier les gens. Parce qu'en fait, l'émission n'a jamais aussi bien marché que cette saison. C'est un rendez-vous qui est maintenant devenu, je n'ai pas envie de dire incontournable parce que ce serait prétentieux, mais les familles ont envie de se retrouver autour de cette ambiance, voilà, de rigolade, de régalade. On se prend pas au sérieux, tout ça se fait en totale détente. Et l'émission n'a jamais aussi bien marché que cette saison. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous et on ne cesse de remercier les téléspectateurs d'être au rendez-vous, que ce soit moi ou Cyril. On est vraiment très très heureux de partager ces moments de fête.
Oui, parce que non seulement ça cartonne, mais il faut dire quand même que la concurrence est rude en face, hein, parce que entre les préparations de matchs de foot qui arrivent, le journal télé de TF1, le N'oubliez pas les paroles de France 2 et tout, qui mène la vie dure aux audiences, eh bien, vous tirez non seulement votre épingle du jeu, mais vous êtes en train de battre des records sur certaines cibles en ce moment. Donc vraiment, bravo à tous, parce qu'on s'amuse follement avec vous. C'est divertissant, c'est ludique, et tout le monde peut faire ces recettes-là. C'est vraiment ça la marque de fabrique hein, de Tous en Cuisine.
Oui, c'est une émission qui se fait en modestie, en bon esprit, en détente, comme à la maison. Voilà, elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais c'est ce qui fait l'âme d'un programme aussi.
Ah bah bien sûr.
Et donc effectivement, on est dans un carrefour très très concurrentiel, mais c'est pas ce qui fait qu'on change ou pas le programme. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur cette ligne, nous. On est sur la ligne de faire un programme qui à notre avis peut plaire aux gens pour toutes ces raisons que je viens d'invoquer et on est heureux que les gens soient au rendez-vous et soient sur la même dans le même état d'esprit que nous. Voilà. Et tant mieux si tout le monde marche bien en ce moment et que toutes les émissions fonctionnent. Ça nous fait plaisir et ça nous fait plaisir de voir qu'on est sur la même ligne que les téléspectateurs en ce moment. Voilà.
Et il faut dire que par rapport au Covid, là, on ne fait faire carrément le tour de France. Hein. C'est-à-dire que là, on t'envoie carrément aux quatre coins du pays pour venir cuisiner en direct dans des conditions des fois, mais rocambolesques. Hein.
Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, je vais te dire la vérité, c'est qu'au moment du Covid, quand l'émission forcément marchait très bien, puisque tout le monde était à la maison, c'était un autre contexte. Le producteur de l'émission me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le Covid sera passé? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je dis, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais aller de ville en ville cuisiner. Et on est parti sur cette ligne, donc on était encore dans le Covid à l'époque. Et j'imaginais pas qu'on allait le faire à ce point-là. Et alors là, je suis en train de faire en fait la télé avec laquelle j'ai grandi. Hein. J'ai grandi avec les jeux de 20h, les petits papiers de Noël, toutes les émissions-là où on allait dans les périodes de Noël à la rencontre des téléspectateurs, pour se réchauffer, pour être en convivialité, pour se faire du bien, pour les remercier de la fidélité qu'ils nous apportent. Voilà, on est vraiment dans la télé avec laquelle j'ai grandi et je suis très très heureux de faire ce Tour de France.
Alors il y aura pendant toutes les fêtes, hein, vous allez partir aussi à la rencontre des spectateurs. Alors il y aura dans Lot, je crois que vous allez aller à Figeac. Enfin il y a plein d'endroits que tu vas visiter, ouais, pendant les fêtes aussi, puisque ça continue tous les soirs pendant toutes les fêtes de Noël évidemment. Alors autre chose aussi avec toi, Jérôme, c'est Tous ensemble à Gadir. Le grand concert, ça sera le 23 décembre. Tu seras avec Erika Moulay sur scène et tu vas accueillir toutes les plus grandes stars françaises du moment qui seront là pour un concert extraordinaire depuis Agadir.
Alors là, très sincèrement, on est parti, je vais pas dire en vacances, hein, parce que les vacances c'est un peu plus long que ça, mais on est parti en séjour, se faire plaisir, avec effectivement tous les artistes qui marchent bien et quelques amis artistes marocains qui cartonnent là-bas. Et donc oui, Tous ensemble à Agadir, c'est Tous ensemble rendez-vous à l'aéroport, Tous ensemble on va décoller, Tous ensemble on va arriver là-bas et faire des tagines et des couscous, et surtout on va faire un concert en fin de journée. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est vraiment une bande de copains, chanteurs, artistes qui se retrouvent au soleil. Alors je sais que ça fait rêver les gens qui vont regarder, qui ont la possibilité ou pas de pouvoir s'offrir des voyages comme celui-là, mais voilà, on avait envie de partager un moment comme ça, là encore de convivialité, de chansons, dans les périodes de fête, c'est toujours le bon moment. Alors effectivement, dans nos bagages, on est bien, hein. On a Gims, on a Patrick Bruel, on a beaucoup d'artistes qui ont répondu présents pour une soirée vraiment d'exception, notre copain Yann, avec son fameux clic-clic-pampan, et tous les autres qui répondent présents pour s'amuser, pour se détendre dans un contexte un peu différent.
Oui, et on peut en citer d'autres, évidemment, Christophe Willem, Chimène Badi, Claudio Capeo, la troupe de Molière, l'Opéra Urbain, Lazara, Ritza, Camélia Jordana et plein d'autres qui vous attendront donc pour un grand rendez-vous le 23 décembre à 21h05. Dis-moi, tu as fait tes premiers pas de comédien aussi dans Meurtre à Nancy, il n'y a pas longtemps?
Ah ouais.
T'as vu, je sais tout.
Mais tu sais, il y a un âge dans la vie où il est urgent de réaliser ses rêves d'enfant. Et puis c'est marrant parce que la vie fait qu'il se réalise sans qu'on ait besoin de solliciter qui que ce soit. Effectivement, c'est à Nancy, il tourne cette série avec Christina Reali et Fabrice Deville. Et j'étais heureux qu'ils aient pensé à moi pour ce petit clin d'œil nancéen où j'ai eu l'occasion de faire 4 jours de tournage. Alors 4 jours de tournage, c'est 4 petites scènes. C'est pas grand-chose, mais pour moi, c'était extraordinaire. En plus, j'ai campé le rôle d'un médecin légiste. Ma mère était fière. Donc si tu veux, c'est vraiment des petits plaisirs de ce métier qui passent comme ça parfois, et en plus du reste, toutes ces émissions que j'ai le plaisir d'animer, toutes ces équipes avec lesquelles je bourlingue depuis des années, c'est vraiment des chouettes cadeaux de Noël.
Alors, t'auras tout fait faire, hein, commis de cuisine, médecin légiste, alors tu es chanteur.
Mais oui, j'aurais tout fait faire, et puis là je suis même en train de travailler sur une pièce de théâtre, là, à partir de janvier, on va commencer à travailler sur le projet d'une pièce de théâtre, et puis je fais toujours mes concerts, avec toujours mon album, ma plus belle chanson, et puis là je suis en train de préparer un autre album, qu'on va commencer à enregistrer aussi en janvier. Voilà, je m'occupe. On est bien, on profite de se faire plaisir.
Voilà, comme un célèbre animateur disait à l'époque, on est bien Tintin, voilà.
On est bien Tintin, exactement.
Bon, Jérôme, tu sais que je ne peux pas t'avoir sans t'entendre chanter à la fin de notre interview, parce que j'adore toujours t'écouter chanter aussi, avec ma plus belle chanson, ce magnifique album. Et pour se quitter, ben on va se quitter en musique, justement, avec toi. Lequel titre t'as envie qu'on passe là maintenant de ma plus belle chanson, de ton album?
Allons. Alors là, ma plus belle chanson, c'est des standards de la chanson française qu'on a repris dans des versions swing. On va faire un petit tour dans les années 80, si t'es d'accord, avec Le Géant de Papier, par exemple.
Ah ben voilà, Le Géant de Papier, moi je te suis. Allez, c'est parti. Jérôme Anthony, ma plus belle chanson, l'album encore dans les bacs. Le Géant de Papier, on va l'écouter pour se quitter. On te retrouve dans Tous en Cuisine, évidemment, du lundi au vendredi à 18h40, le 23 décembre à 21h05 sur W9, avec ce grand concert à Agadir. Plein de belles choses. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci Alain, merci à tous. Passez de bonnes fêtes, je vous embrasse fort.
Moi aussi, on t'embrasse fort. À très vite.
Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales, sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable.
un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable et pourtant. Je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant.
Et c'est Diane Lair qui nous rejoint dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas, on fait le bilan de son année Miss France. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
À 48 heures de mon cœur, tu restes là. Je sens, je te vois. À 48 heures de mon cœur, ne me laisse pas, le manque me hante, j'attends. À 48 heures de ton cœur, j'accours, je pleure, ça fait déjà longtemps. À 48 heures de ton cœur, la passion se sent. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 48 heures de mon cœur, tu vis ta vie pourtant liée, alors je crie. À 48 heures de mon cœur, pourquoi si vite parti, tes promesses finies. À 48 heures de mon cœur, à 48 heures de ton cœur, un peu de rancœur, mais on se retrouve toujours. À 48 heures de ton cœur, toi et moi, le retour. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. Ce qui te fuit, oh, laisse-toi guider sur le fil qui te ramène à moi. Pour un avenir à jamais lié pour toi. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais.
deux jours de toi, cuore mio.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on démarre notre spécial Miss France. Et oui, Miss France 2023 sera élue, eh bien, justement, à Châteauroux, samedi prochain. Diane Lair, qui est avec nous, notre Miss France 2022. Bonjour, Diane.
Bonjour, comment allez-vous?
Eh ben, ça va très très bien. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, Diane. Il faut dire que ça a été une année remplie et à la fois aussi un peu de libération du Covid par rapport aux deux précédentes Miss. C'est une libération à la fois et une possibilité d'aller à la rencontre des Français, du coup, beaucoup plus.
Effectivement, j'ai eu la chance d'être sortie de crise et du coup de pouvoir aller à la rencontre des Français. Et on a pu le constater, je crois, la société Miss France et moi, que Miss France avait manqué. Les Français ont été extrêmement accueillants, extrêmement demandeurs, et ça a été une chance pour moi de pouvoir aller les remercier, les saluer et surtout les câliner, parce que c'est vrai que le masque nous avait empêché le toucher, qui est pourtant si important avec Miss France.
Si on devait retourner un an en arrière, quel regard maintenant, Diane, vous avez envie de porter sur cette année de folie que vous venez de vivre?
C'est allé tellement vite, c'est passé tellement de choses. Si là, je prends le recul, je savais que ça allait bouleverser ma vie, je pensais pas à ce point. Mais j'ai vécu la plus belle année de ma vie, clairement. C'est le plus beau rôle qui m'ait été donné que d'être Miss France. Le prochain sera peut-être d'être mère. À ce jour, en tout cas, il restera d'être Miss France. Et non, j'ai vécu une année de dingue avec des rencontres, des expériences. J'ai pris une maturité comme avec 10 ans d'expérience, une intelligence sociale, tout simplement. C'est sur cette maturité-là, je pense, que j'ai le plus évolué. Et il est vrai que je suis déjà nostalgique des premiers jours. J'ai l'impression que c'était encore hier que j'étais sur la scène de Caen et que j'entendais Jean-Pierre Pernaut citer ma région. Et il est maintenant temps de découvrir une nouvelle Cendrillon. Et je suis à la fois nostalgique et en même temps tellement excitée, parce qu'on le sait dès le début, Miss France ne dure qu'un an, et c'est ça aussi qui fait sa beauté. Et il faut accepter que la lumière aille aux autres. Et c'est pour ça que je finis cette année sereine et surtout conquise, parce que j'ai pu aller voir les Français, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu les écouter. Et j'ai l'impression d'avoir rempli en tout cas les objectifs que je m'étais fixés, et j'en suis ravie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à moi, mais Miss France, c'est pour toujours.
Alors, je sais qu'il y aura un hommage qui sera rendu à Jean-Pierre Pernaut, justement, lui qui adorait les Miss. C'est quelque chose pour lui qui était tellement important. C'était sa récréation annuelle de vous accueillir toutes sur son plateau du 13h. Donc je sais qu'il y aura un très bel hommage en tout cas qui lui sera rendu samedi, Diane. Souvent, une Miss, bah, évidemment, quand on va céder son titre, on se sent un peu poussé par la porte. Mais vous, j'ai l'impression qu'au contraire, vous avez envie d'accueillir cette jeune fille. Vous le prenez vraiment comme une famille que vous avez tout simplement pas choisi, mais qui vous a choisi à la fois.
Vous avez tout dit. Effectivement, je pense que Miss France, il y a deux réactions. C'est très difficile, vous savez, parce que à la fois, vous avez cette sensation, vous faites 3 heures de prime et votre vie, elle se chamboule, et il n'y a que Miss France qui vous fait vivre ça. Où on devient une personnalité publique de la sorte, où on est su par un demi-million de personnes en seulement 3 heures de prime. C'est monstrueux. Et je vais même dire, c'est pas 3 heures de prime, c'est 10 minutes. C'est-à-dire qu'au moment où ils disent notre région, les 10 minutes plus tard, les réseaux vont dans tous les sens et vous devenez du jour au lendemain du passage de l'ombre à la lumière, et c'est assez impressionnant à voir. Et c'est tout aussi dur de revivre cette même expérience sur un plateau et d'un coup de voir la lumière aller sur quelqu'un d'autre. Mais il est vrai que je l'accueille de manière... J'ai hâte, en fait. Parce que j'ai accepté le fait que ça durait qu'un an. Parce que je trouve que voir des Cendrillons chaque année, je trouve ça génial. Voir des nouvelles Miss France avec des nouveaux caractères et qui écrivent leur histoire aussi, je trouve ça dingue. Et d'avoir pu, en fait, aller couronner les Miss, je suis tout comme les Français. J'ai une impatience de dingue de pouvoir découvrir où se cache la prochaine Cendrillon.
Alors... Il faut dire qu'on va parler de vos envies, certes pour 2023, mais moi je me pose une question quand même depuis septembre. Alors, vous êtes dans une grande matinale d'une grande radio, les représentations, les élections régionales. Diane, vous avez dormi beaucoup en 4 mois ou pas?
Rien du tout. C'est vrai, je me lève à 4h du matin, je suis à l'antenne à partir de 5h55, je finis à 9h30, je pars à la gare, je vais en prestation, je rentre aux alentours... au minimum 20h, mais souvent aux alentours de 23h, je travaille sur mon émission de radio et je repars comme en l'an 40. Je dors très peu, mais en fait, je les compte pas, les heures. Vous savez, je me dis souvent, j'ai souvent dit que quand on aime ce qu'on fait, finalement, on n'a pas besoin de dormir. Je vis sur l'énergie des autres. Je pense que c'est ça qui fait que je vis aussi bien cette année. Il m'arrive parfois d'être à la maison et d'avoir des vrais coups de fatigue. Et c'est quand je vais en région, c'est quand je suis à la radio, c'est quand j'entends les gens, que d'un coup, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 18 heures. C'est ce que je pense qui représente les gens extravertis, ce que je suis. C'est pour ça que cette année, elle est beaucoup plus simple. Après, il est vrai, je dors très peu. Il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. Mais en fait, j'avais envie de saisir toutes les opportunités et surtout, je voulais répondre à cette frustration qui était que je faisais qu'une région par jour et qu'il y a des régions qui sont moins demandeuses parce que elles accueillent moins de miss, parce qu'elles accueillent moins d'événements aussi. Et j'avais envie de pouvoir leur proposer aussi, de pouvoir me rencontrer tous les matins et d'avoir ce rendez-vous-là. Alors, c'était un gros challenge, je vous l'accorde. Je suis la première Miss France qui allie à la fois un job et son titre. Mais voilà.
Ce que d'autres l'ont fait, mais après avoir remis leur titre. Là, franchement, cumuler les deux, chapeau Diane.
Exactement. Mais comme je l'avais dit au tout début, je suis une femme de challenge. Et après 8 mois de titre, j'avais besoin de quelque chose de renouveau, un peu d'un nouveau challenge. Et quand j'ai eu la chance que Cyril Hanouna me propose le job, j'ai sauté sur l'occasion lorsque j'ai eu l'accord de la société Miss France. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, je peux vous dire que je suis plus que conquise. Je prends un vrai plaisir à être à la radio tous les matins et un vrai plaisir aussi à aller en région. Encore une fois, j'ai la chance que le 11 décembre dernier, ma vie elle a basculé de la meilleure des manières.
C'est quoi maintenant les projets pour 2023, à part refaire Fort Boyard?
Effectivement, il y aura sûrement un retour dans la région à Poitou-Charentes pour retourner sur Fort Boyard. Les projets, ils sont nombreux. Bah, premièrement, la radio, c'est pas fini. Je continue après mon titre. Hein, on a commencé pendant mon année de titre et on continuera ensuite. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je l'espère longtemps. Dans les médias, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y aura d'autre comme projet. J'ai des idées. J'ai des envies. Maintenant, est-ce qu'elles ont leur place dans les médias? Je ne sais pas encore. En tout cas, j'essaie.
Des challenges comme Danse avec les stars, ça vous plairait?
Je suis pas sûre que j'ai ma place dans Danse avec les stars, pour être tout à fait honnête. C'est un programme que j'apprécie, j'adore regarder, mais j'ai jamais aimé la danse. J'ai été très mauvaise à Miss France, j'étais mauvaise élève. Et surtout, je trouve que ça prend beaucoup de temps. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que dans 2-3 ans, pourquoi pas, si j'ai envie de me lancer un nouveau challenge. À ce jour, en tout cas, je m'y vois pas. Et je pense qu'il y aura de meilleurs candidats que moi, surtout. Mais non, et après, en autre projet, plutôt ouais, des émissions télé, mais laquelle, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'émission qui me ressemble. Donc, à la télé, en tout cas. Donc, à Virgin, vraiment, je m'éclate. Et j'ai trouvé ma place. Et c'est une émission dans laquelle j'ai pu vraiment être moi, en fait, Diane Lair, sans filtre. Et avoir, en fait, donné une autre perspective. C'est vrai que la Miss France en titre, on l'entend souvent de la même manière. Quand elle va sur des plateaux télé, on pose toujours les mêmes questions. La radio, ça me permet de parler de tout, de l'actualité, et de pouvoir vraiment donner mon point de vue. Et j'ai l'impression que, du coup, on a pu me découvrir d'une autre manière, et de manière beaucoup plus rapide.
Et c'est du direct, en plus. C'est sans filtre, donc c'est naturel.
C'est 100% du direct. Et les sujets sont divers et variés, et parfois, ils peuvent changer last minute à l'antenne. Voilà. Mais sur la suite des projets, je pense qu'ils sont... J'étais entrepreneur avant, je continuerai à être dans ce sens-là. J'ai toujours eu la passion de créer des entreprises et jouer avec ma créativité. Et j'espère pouvoir continuer dans cette manière-là. J'ai pu rencontrer des gens, et j'ai entendu leurs interrogations, et je vais essayer d'y répondre.
En tout cas, l'aventure n'est pas encore tout à fait terminée. Samedi, même si Diane rend son titre, on dit, c'est un dicton qu'on dit souvent dans notre région, en tout cas pour nos Miss. Miss France un jour, Miss France
toujours.
Merci beaucoup Diane d'avoir été avec nous pour cette spéciale Miss France. Et c'est donc samedi en direct du MAC 36 de Châteauroux que toutes les candidates vous donneront rendez-vous, y compris nos candidates de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous et évidemment on compte sur votre chauvinisme pour soutenir vos candidates pour qu'elles aillent le plus loin possible.
Évidemment.
C'est le début de l'aventure, un petit peu de stress, mais je suis bien entourée, donc j'ai hâte. Ça fait, on va dire, 7 ans que je me prépare à cette élection, donc c'est un aboutissement. On valide ou pas? Je suis née en Haïti, j'ai été adoptée à l'âge de 7 mois et j'ai été adoptée par une famille de Périgourdins. Et je suis super fière de représenter l'Aquitaine. Je me sens hyper reconnaissante de tout ce qu'elle m'a offert. C'est ma manière à moi de prouver mon amour.
Je regarde Miss France depuis que je suis petite et c'est un rêve de jeune fille qui est devenu un rêve de jeune femme. Miss France a toujours représenté pour moi l'élégance, le charme, le glamour et puis l'opportunité de faire un tas de belles rencontres, porter sa voix à plus grande échelle. Je suis née à Limoges, dans une petite commune qui s'appelle Couzec. Je suis un petit peu comme le trépaïs. C'est une pâtisserie typique de chez nous, en forme de triangle, qui représente les 3 départements de la région. Je suis née en Haute-Vienne. J'ai réalisé mon tout premier semi-marathon en Creuse et en Corrèze, où j'ai décroché la belle couronne.
Prêt pour le tournage, on a les cheveux, le maquillage, le petit plaid pour la petite robe, et c'est parti.
Je me suis lancée dans l'aventure vraiment comme ça, je me suis dit vas-y fonce pour kiffer et maintenant ça va être que du plaisir, je vais m'éclater.
Je viens d'arriver à la Tremblade.
Je vous emmène avec moi dans le Poitou-Charentes avec les huîtres.
Dernier plan de la journée et c'est parti.
Le début du portrait c'était assez compliqué, c'est vrai que je suis assez timide. Mais c'est vrai que j'ai réussi à me détendre au fur et à mesure et j'ai réussi à prendre confiance en moi. C'est aussi un message à faire passer aux petites filles qu'on arrive toujours à prendre confiance en soi et qu'il faut avoir confiance en soi. C'est la fin du tournage de mon portrait, je vous remercie et je vous fais plein de bisous.
Et on va donc souhaiter bonne chance à nos trois Miss qui représentent la Nouvelle-Aquitaine, à Oriane Galvez-Soto, notre Miss Aquitaine, Salomé Maune, notre Miss Limousin, et Marine Paulet, notre Miss Poitou-Charentes. Les filles, on est derrière vous. Tous derrière nos Miss de Nouvelle-Aquitaine, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Donc, ça sera samedi soir en direct sur TF1 qu'il vous faudra soutenir vos Miss s'ils sont dans le top 15, si elles sont dans le top 15 en tout cas.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et du beau monde pour cette émission d'avant Noël. Pour ce 19 décembre, lundi prochain, nous aurons le grand plaisir de consacrer une spéciale du film Tempête de Christian Duguay qui sera notre invité avec Carmen Kassovitz et Pio Marmaille qui seront notamment avec nous. On va parler évidemment aussi des Chevaliers du Fiel et de leur spectacle qui dynamite 2022 sur C8. À cette occasion, Eric Carrière sera notre invité exceptionnel. Ça sera le retour également de Demain nous appartient, Dunia Cossin alias Romy dans la série viendra tout nous dire sur ce retour tant attendu de la série par les fans et bien d'autres surprises aussi évidemment.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.